Le budget d'immobilisation 2025-2026 de la province du Nouveau-Brunswick a été révélé il y a quelques jours et le district scolaire francophone sud réagit par le biais de son président de conseil d'éducation, Michel Côté. Voici la suite de cette conversation. Par rapport aux données d'espace nécessaire, on sait qu'il y a des classes mobiles un petit peu partout qui se sont mises en place ces dernières années. Est-ce qu'on a une idée du nombre de classes mobiles, du nombre d'élèves qui sont dans ces classes et quel pourcentage ça représente?
C'est une très bonne question, Sébastien. J'ai pas cette donnée-là, mais c'est quand on regarde juste ici à Samuel de Champlain, c'est 6 classes mobiles, en plus de 2 classes du côté communautaire. Donc, déjà là, si tu prends une classe qui a environ 20-25 élèves, ça fait...
On n'est pas loin de 200 élèves dans
ce cas-là. Pas loin de 200 élèves juste ici. Puis il y a des écoles qui en ont autant de roulottes qu'ici, là, quand on regarde là, le sommet et tout ça. Donc, c'est énorme. C'est énorme le nombre d'élèves qui sont dans les roulottes. Et puis, on s'entend que les roulottes, c'est pas un milieu d'apprentissage adéquat. Ici, on le sait, là, les élèves doivent sortir de la roulotte pour aller aux toilettes. C'est pas attaché à l'école. Donc, pour une province comme le Nouveau-Brunswick, là, c'est un petit peu gênant là, d'avoir autant de d'espace temporaire comme ça. Là.
Est-ce que si on fait un calcul un peu grossier, est-ce qu'on pourrait être autour de 15% des élèves qui seraient dans ces classes-là?
Possiblement, là, comme je dis, il faudrait que je m'arrête à cela. C'est une excellente question. Il y en a beaucoup, et puis on en a... une quarantaine de plus qui s'en vient dans les 4 prochaines années, en plus de ce qu'on a déjà. Puis encore une fois, on a besoin de 40 roulottes, comme je dis, sauf que c'est même pas certain qu'on va être capable de trouver ces roulottes-là.
Et parce qu'il faut les produire aussi.
Ben, exactement.
On parle de l'absence de ces projets qui viennent pas là tout de suite, en disant que ça pourrait compromettre le respect des droits linguistiques constitutionnels. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus en détail ce qu'il en est?
Bien, en fait, c'est que selon l'article 23 de la Charte des droits et libertés, les milieux minoritaires, doublement minoritaires, où ce qu'il y a assez d'ayants droit, la province se doit de fournir un établissement scolaire pour ces régions-là. C'est un peu la base là, de la poursuite qui a été entamée là, il y a près d'un an auprès du gouvernement conservateur dans le temps. Vraiment, pas mal toutes nos écoles sont en milieu minoritaire, donc sont assujetties à l'article 23. C'est peut-être un petit peu plus, c'est plus amplifié dans les régions Saint-Jean, Fredericton et Miramichi parce que c'est des milieux vraiment plus triplement minoritaires, là, donc minoritaires dans sa ville, dans sa province et dans son pays. Donc, c'est certain qu'on a des cas de cours, des jurisprudences ailleurs dans le pays qui sont extrêmement favorables à ce qu'on essaie de faire ici au Nouveau-Brunswick. Et puis, le Nouveau-Brunswick étant la seule province officiellement bilingue au Canada, c'est comme un genre de nuage noir là, qu'on a, qu'on doit faire des menaces juridiques là, pour avoir des établissements. Là. Donc, le Nouveau-Brunswick n'a pas intérêt à ne pas coopérer. Mais encore une fois, je disais, on est quand même sur une bonne voie avec les annonces des 3 écoles qu'on parlait tantôt, Sussex, Saint-Stephen, Woodstock. Ça, c'est en plein l'idée de l'article 23. Mais il y a plein d'autres endroits comme Samuel de Champlain qu'on doit de ce mieux. On doit avoir un enseignement équitable. C'est le même qu'on parle dans l'article 23. Et puis avec toutes les roulottes, le peu de gymnase qu'on a pour tous les élèves ici à Samuel de Champlain. On argumente que ce n'est pas équitable.
Depuis la mise en place du gouvernement de Suzanne Holt, je sais qu'il y a eu plusieurs rencontres avec les ministres, avec la première ministre, notamment à Fredericton, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on a une progression, mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a de la déception par rapport à ces rencontres qui ont eu lieu?
Oui, je dirais que oui. Parce que suite à la rencontre avec la première ministre, on sentait qu'il y avait quand même des choses qui bougeaient par rapport à la liste. Parce que nous, ce qu'on réitérait, c'est qu'on ne comprend pas que le conseil d'éducation, qui sont des élus scolaires, remettent à la province, au ministère de l'Éducation, une liste de priorités que eux ont soigneusement identifiées. Et puis que lorsque ça arrive au ministère de l'Éducation, ces priorités-là changent. Donc, selon les outils que le ministère se donne, il se donne le droit de changer les priorités des élus scolaires. Donc, pour moi, cela, ce n'est pas la démocratie. La démocratie devrait régner. Donc, les élus scolaires devraient avoir le droit. Les élus sont élus par la population. Donc, c'est eux qui devraient avoir le dernier mot à ce niveau-là. Et puis, on a senti qu'il y avait quand même essayé de voir s'ils ne pouvaient pas être plus en mesure de respecter les décisions des élus scolaires. Mais on a vu avec le budget d'hier qu'ils n'ont pas réussi.
Et alors, est-ce qu'ils s'en expliquent? Est-ce qu'on a un retour de la part du ministère ou du gouvernement par rapport à ça?
Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'on se doit d'avoir un outil qui est capable de gérer les demandes de 7 districts et non pas seulement de 1 district scolaire. Donc, ils doivent mettre les anglophones et les francophones et de pouvoir vraiment là, avoir une analyse logique de tous les projets de la province. Et puis, donc, j'imagine que les élus scolaires ne font pas des analyses logiques.
Concrètement, donc, on est sur un pas dans la bonne direction qui ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on attend maintenant du gouvernement du Nouveau-Brunswick à court terme?
À court terme, j'espère qu'il va y avoir premièrement une prise de conscience avec cet outil d'analyse-là. Je pense que les projets des districts francophones qui sont assujettis à l'article 23 doivent être complètement séparés de ça. Ils doivent être vus d'une autre façon. J'espère qu'il y aura vraiment une volonté pour... écoutez, Samuel Champlain, on est sur le bord, là. On nous dit l'année prochaine, donc on est pas mal confiant que l'année prochaine, ça va débuter. On va essayer de pousser pour peut-être commencer un petit peu plus tôt quand même, là, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais il faut que le ministère ait quand même une prise de conscience par rapport à la façon de faire là, versus les décisions qui sont prises par les conseillers scolaires et voir au respect de ces décisions-là.
Mais donc on parle quand même de... On a quand même à un moment quelqu'un qui dit l'année prochaine.
Oui, on s'est fait dire par la ministre de l'Éducation que l'année prochaine... Mais encore une fois, s'il n'y a pas d'urgence, ouais. Mais je pense que Samuel de Champlain est une urgence depuis longtemps.
Qu'est-ce que les parents ou les communautés pourraient faire pour appuyer ces demandes?
C'est certain que quand il y a une mobilisation communautaire, ça l'aide beaucoup. Nous, le Conseil d'éducation, on met beaucoup de pression de notre bord, mais quand il y a des parents qui parlent, ça nous aide beaucoup. On l'a vu à Samuel Champlain, il y a eu énormément de pression de fait des parents. Malheureusement, ça n'a pas eu les résultats escomptés. Je suis certain que ça l'a joué dans la balance quand même. Mais je suis pas mal confiant que les parents de Moncton et de Riverview, à ce que j'entends, vont se mettre ensemble pour commencer à mettre la pression de leur côté parce que... Je veux dire, les élus provinciaux sont sensibles à leurs électeurs. Donc, la ministre de l'Éducation habite dans ces régions-là. Alors, ils ont tout intérêt à pousser le projet, c'est certain.
C'est le message qu'on envoie aux familles de Moncton, Riverview, Saint-Jean, de leur dire qu'on espère qu'ils vont, eux, se mobiliser aujourd'hui?
Ah, définitivement. Encore une fois, je lève mon chapeau aux parents de Samuel de Champlain, de la région de Saint-Jean, qui ont fait énormément de pression dans les dernières années, jamais vu. On espère que les autres régions vont faire de même.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait ajouter?
Ben c'est tu sais, quand on regarde ça, toutes les ce qui s'en vient, c'est prévisible tout ça. C'est pas comme si ça nous arrive comme un cheveu sur la soupe. Là. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on va manquer de place dans cette région-là. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on va manquer de place ou qu'on manque de place à Samuel-de-Champlain. Et puis, sachant que c'est des processus qui durent environ 5 ans, c'est pour ça que c'est important d'annoncer dès maintenant. Puis c'est pour ça qu'on est très inquiet. T'sais. Oui, l'Odyssée à Moncton n'est pas pleine au moment où on se parle, mais elle va être pleine dans 2 ans. Puis dans 5 ans, si on commence le projet demain matin, dans 5 ans, elle va être déjà comme 200-300 élèves au-dessus de la capacité. Donc, c'est pour ça qu'on pousse. Et puis, on espère que le gouvernement vont voir ce qu'on voit et puis vont agir.
Merci Michel. Michel Côté, président du Conseil d'éducation du district scolaire francophone sud. On va évidemment suivre les différentes étapes à venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et puis peut-être guetter aussi les réactions du gouvernement. Merci.
Parfait, ça me fait plaisir. Merci à toi Sébastien.
Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.